Bonjour Béliar Nabli.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur France Culture pour tenter de poser un regard éclairé sur cette nouvelle affaire qui gêne considérablement le gouvernement et Emmanuel Macron depuis jeudi dernier et les révélations de Mediapart. Le risque d'un nouvel été meurtrier pour l'exécutif est réel après, en 2007, les affaires liées au Modem et à la démission notamment de François Bayrou et puis, en 2018, l'affaire Benalla. Le Omar Gate. C'est cette histoire de dîner fastueux organisé par François de Rugy à l'époque où il était président de l'Assemblée nationale et les différentes autres révélations qui se sont enchaînées depuis sont là, hein, sur son logement de fonction, sur un loyer social à Orvault à côté de Nantes, sur sa directrice de cabinet, Nicole Klein, poussée à la démission. Toutes ces affaires, quelles résonances ont-elles dans l'opinion publique? Comment se traduisent-elles dans l'électorat et doivent-elles nous inciter à chercher l'homme politique moral? Celui-là d'ailleurs peut-il exister? Béliar Nabli, vous êtes maître de conférence en droit public et auteur de La République du soupçon, la vie politique au risque de la transparence, publié l'an dernier aux éditions du Cerf. Alors cette affaire étonnante à plus d'un titre, c'est celle un peu de l'arroseur arrosé. Hein. François de Rugy s'était posé en chevalier blanc de la République. Au perchoir, il avait d'ailleurs réussi à faire baisser le budget de l'Assemblée nationale et notamment le budget de la présidence de l'Assemblée. Le fait qu'il se fasse pincer si stupidement pour une affaire de Omar, vous mettez ça sur un sentiment d'impunité, Béliar Nabli, ou de toute puissance qui peut prendre finalement n'importe quel homme politique, l'ivresse des cimes.
Disons qu'il y a d'abord et avant tout le choc des photos. C'est, si on devait nous relater par des mots ou à l'écrit finalement cette histoire, on n'aurait pas eu cette réaction de l'opinion publique. Ce sont des images qui, d'une certaine manière, semblent nous replonger dans une histoire qui n'est plus la nôtre, celle de l'ancien régime, pour aller vite. Mais aussi celle des fastes de la République qu'on accepte plus ou moins, mais qu'on n'accepte pas certainement dès lors que nous sommes dans la sphère privée. Et c'est effectivement cette question de la frontière entre l'espace public, ou plutôt l'exercice des fonctions politiques, et de l'autre, l'espace privé, qui pose question et qui a pu susciter une telle réaction. On n'a pas compris, a priori, quel était le rapport entre l'exercice de la fonction de président de l'Assemblée nationale et le déploiement d'un tel faste.
Cette frontière entre vie privée et fonction publique, elle s'évanouit. C'est pourtant pas la première fois que ça arrive, et c'est pas la première fois qu'on en est témoin, Béliar Nabli.
Effectivement, c'est quelque chose de structurel, mais si on est confronté à cette question de la frontière, c'est parce que, parallèlement, vous avez la montée en puissance de la question de la transparence. Et dès lors qu'on a accès à la vie publique et à la vie privée de nos responsables politiques, bah, parfois, la frontière n'est pas si claire. Et en l'occurrence, vous avez bien constaté avec moi que l'ancien président de l'Assemblée nationale était lui-même confronté à la difficulté de définir une frontière claire par rapport notamment à la soirée, au dîner en question. Comment expliquer d'avoir reçu des intimes finalement, ou des amis de sa femme, etc., dans un palais de la République?
Il a essayé d'expliquer en disant c'était dans le cadre du travail finalement.
Tout en précisant que c'était dans un cadre informel aussi. Entre le travail, et le travail informel, etc., tout cela précisément renvoie aussi à la difficulté d'encadrer ce type d'activité. Je veux dire par là que ce qui est intéressant avec l'affaire de Rugy, c'est que finalement, il n'y a pas beaucoup d'éléments répréhensibles du point de vue légal, mais précisément, c'est parce que ce n'est pas une question de droit, c'est une question de culture politique je dirais certains aussi de bon sens, mais aussi du sens politique. C'est-à-dire, si on a le sens politique, on part du postulat qu'on vit une nouvelle ère dans notre relation à la transparence, dans notre relation aux dépenses publiques, et que par conséquent, l'homme politique réaliste, machiavélien y compris, prend en considération ce nouvel environnement et tente d'éviter ce type de circonstances.
Là, il y a un manque de bon sens ou de sens politique de la part de François de Rugy dans cette affaire-là?
Alors, ça dépend de quelle affaire, j'allais dire.
Parce que les photos sont parlantes, vous l'avez dit, et vous évoquiez tout à l'heure l'ancien régime ou les fastes de la République. C'est peut-être le statut de l'homme politique en France qui pose problème. Et cette culture-là, cette culture politique dont on n'arrive pas à se défaire, dans ce cadre-là, peut-être qu'il fallait s'abstenir d'organiser ce genre de soirée.
En effet, c'est, lorsqu'on parle d'un changement d'environnement, voire de changement de l'ère politique, c'est précisément aussi la question de la place de l'homme politique dans notre société, dans notre cité. Il fait l'objet d'une forme de dévalorisation. Et cette dévalorisation, à la fois statutaire et symbolique, s'accompagne précisément d'une plus grande exigence quant à son comportement. L'homme politique n'est plus sacré, loin s'en faut, et les privilèges de droit ou de fait dont il a pu bénéficier sont systématiquement questionnés, remis en cause. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que son action elle-même est questionnée. L'efficacité de l'action publique est questionnée. Et c'est une question que je me pose. Est-ce qu'on, ce questionnement autour de la transparence, cette exigence et cette intolérance sociale vis-à-vis de comportements qui étaient tolérés il y a encore quelques années, cette évolution-là, est-ce qu'elle ne s'explique pas précisément par l'échec de l'action de nos politiques par rapport à précisément des objectifs d'ordre économique et social, tout simplement. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont confrontés à leur propre échec, on cherche d'autres éléments pour apprécier leur action, précisément, y compris des éléments d'ordre moral.
Il y a une défiance qui monte et aussi quelque chose qui ne se passe pas peut-être en termes de moralisation de la vie politique. On enchaîne les textes, on enchaîne les lois. François de Rugy disait hier dans le JDD que le modèle français, c'est pas celui de la barre de Toblerone. Vous savez, c'est une allusion à Mona Sahlin, cette ministre suédoise qui avait dû démissionner pour avoir payé une barre chocolatée avec sa carte de crédit de fonction. On est évidemment très loin de ce modèle-là. On voit quand même que les choses tendent à évoluer. Ça se fait de manière très, très lente, Béliard Nabli.
Alors, effectivement, nous n'avons pas la même culture politique ni la même histoire que les pays scandinaves, y compris dans notre rapport au statut des politiques et aux dépenses publiques. Qui n'empêche, c'est ce type de réaction aussi qui nourrit et suscite la défiance de nos concitoyens. Pourquoi ? Parce que si on s'en tient à la ligne de défense de M. de Rugy, finalement, il ne voit pas où est le problème. D'ailleurs, ce fut sa première réaction, chronologiquement parlant. Il n'a pas vu où était le problème, il ne comprenait pas le problème. Et le lendemain, à la sortie de Matignon, il s'est engagé pour autant à revoir toute la liste de ses dépenses et en s'engageant à rembourser ce qui, précisément, sortirait de l'ordinaire. Bon, une contradiction qui, d'une certaine manière, dénote aussi d'une difficulté de sa part à apprécier la portée, y compris symbolique, de ses affaires et de son propre comportement. Mais plus largement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de ces images qui ont pu choquer, ça renvoie encore une fois à cette frontière entre la sphère du politique et la vie privée. Parce que si cette affaire prend aussi une telle propension, c'est que le sujet, l'acteur en question, n'est pas n'importe quel acteur. Alors, ce n'est pas, M. de Rugy n'est pas une grande figure, ni de la Ve République, ni même de la Macronie, on va pas se mentir.
Il n'empêche. Numéro 2 du gouvernement.
Oui, à cause de son portefeuille et des circonstances dans lesquelles il a accédé à cette fonction ministérielle. Mais, en réalité, son identité politique est quand même marquée par un certain nombre d'éléments qui précisément s'inscrivent dans ce contexte de défiance. Je rappellerai que c'est Monsieur de Rugy qui s'était engagé durant la dernière campagne présidentielle, et plus précisément durant la primaire au sein de la gauche, s'était engagé par une déclaration de foi sur l'honneur à soutenir le vainqueur de la primaire à gauche. Eh bien, le soir même de sa défaite, ou presque, finalement, il avait remis en cause son propre engagement moral, en déclarant finalement qu'il ne soutiendrait pas le vainqueur de la primaire. C'est ce type de contradiction assumée qui précisément sape la confiance dans la parole du politique et affecte, y compris, le rapport au politique. Et donc c'est la démocratie représentative elle-même qui se retrouve affectée. Plus largement, ou plutôt un autre fait marquant, qui passait plutôt inaperçu, tant mieux pour lui, c'est que M. de Rugy a également, durant l'exercice de ses fonctions à la présidence de l'Assemblée nationale, organisé son propre mariage au sein de l'hôtel de Lassay, là encore, on peut s'interroger sur la légitimité, l'opportunité, enfin, la légitimité et l'opportunité politique, voire morale, d'organiser un événement a priori privé, strictement privé, dans un palais de la République, au cœur de l'une des institutions de notre démocratie. On ne voit pas très bien le lien, et là, on n'est pas obligé non plus de se référer aux pratiques des pays scandinaves pour tenter de balayer ce type de questionnement.
Même si on essaye de faire en sorte de rembourser ou de faire croire qu'on rembourse les frais occasionnés dans ce genre d'événement et de ce genre d'occasion.
Disons que si on doit rembourser, c'est qu'on a priori pas perçu ou aperçu le problème a priori ou de manière préventive. Et c'est bien là le problème, c'est qu'on devrait, ou plutôt nos responsables politiques devraient désormais s'engager dans un travail d'acculturation en intégrant une forme de déontologie propre aux responsables politiques. Et pour être honnête, cette révolution culturelle, entre guillemets, s'est engagée pour le député de base, on va dire. Les députés ont intégré cette nouvelle donne parce que notamment dans leur pratique au quotidien de leur exercice de mandat, ils sont confrontés à un certain nombre d'exigences, notamment liées à l'encadrement de leurs dépenses de frais. Et donc, c'est la quotidienneté de l'homme politique a changé sous le coup des lois que vous avez rappelées. Et à force de se soumettre à ces nouvelles normes contraignantes, eh bien, vous avez, malgré tout, une culture politique qui évolue. Donc, pour le député de base, pour notre représentant national de base, la révolution culturelle est en marche, entre guillemets. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que précisément, la présidence de l'Assemblée nationale a priori échappé à un certain nombre de cet encadrement normatif contraignant, ce qui a pu laisser ou justifier ce type de dérive.
Ça ne peut se faire que dans le temps long, par le biais de cette acculturation dont vous parliez à l'instant, Béliard Nabli, le changement d'une culture politique, ça se fait pas évidemment comme ça, ça se fait pas non plus à coup de révélations dans la presse ou à coup de textes, de lois d'urgence qui sont votées après chaque révélation.
Oui, effectivement, c'est là où le bât blesse, c'est que d'un côté, on sent bien qu'on assiste et qu'on est en train de vivre à une vraie évolution en profondeur. Je le rappelle, qui n'est pas le produit d'une initiative de nos responsables politiques. Ce n'est pas eux qui ont initié cette évolution. Ils la subissent parce que nos concitoyens développent une forme d'intolérance à l'égard de ce comportement qu'ils toléraient. Donc, finalement, l'initiative est du côté des citoyens, dans une forme d'alliance objective, pour tout dire, avec d'autres acteurs, naturellement, de ce qu'on pourrait appeler des contre-pouvoirs, qu'il s'agisse d'organes de presse, médias, on peut le souligner, d'un certain nombre d'associations anticorruption qui sont en montée en puissance dans un jeu dans la conjugaison de l'action avec les médias, mais aussi avec le juge, la figure du juge, la montée de la figure du juge comme contre-pouvoir du politique a joué précisément dans cet encadrement progressif du politique dans l'exercice de ses fonctions. Mais effectivement, bien que ça soit relativement contraignant et imposé de l'extérieur, nos hommes politiques ont pris acte, pour la majeure partie d'entre eux, de cette révolution culturelle en marche. Le temps long, naturellement, s'impose dès lors qu'il s'agit de changer de logiciel et d'habitus, mais en même temps, force est de constater qu'il a bien fallu adopter des lois parce qu'elles sont contraignantes, parce qu'elles sont obligatoires, y compris à l'égard des responsables politiques dont le sentiment d'impunité a longtemps été l'une des marques de fabrique. Et donc, il y a là un équilibre à trouver entre un encadrement législatif, c'est-à-dire à travers des normes juridiques contraignantes, et de l'autre, quelque chose qui relève effectivement d'une acculturation, qui relève du comportement au quotidien, qui est y compris en étant accompagné d'acteurs plus soft qu'un moins contraignants qu'un juge, qu'une autorité de sanction. Je pense notamment à ce qu'on appelle les déontologues qu'on retrouve à peu près dans la plupart des institutions maintenant, publiques et privées d'ailleurs, vous l'aurez constaté. Mmh.
Ce sentiment d'impunité, on a quand même l'impression qu'il est toujours bien présent. Vous dites qu'il s'en va petit à petit, mais il est quand même encore là. On a des exemples d'élus qui sont réélus malgré un certain nombre d'affaires. On a évidemment tout un panel aussi de systèmes de protection des élus en termes d'impunité. Y a quand même, et puis on voit bien les affaires qui sont en train, encore une fois, avec cette affaire de Rugy de surgir, il y a quand même toujours ce sentiment d'impunité. Il est dû aussi peut-être, vous parliez de la figure du juge, mais à une certaine lenteur et à une certaine, il faut bien le souligner aussi, clémence de la justice quand il s'agit d'affaires de prévarication.
Oui, c'est un fait indéniable, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver un certain nombre de sanctions judiciaires prononcées à l'encontre de responsables politiques liés à leur comportement et donc à la violation de la probité publique. Les condamnations sont rares, y compris les condamnations à l'inéligibilité. Et en même temps, on a quand même le sentiment de vivre un tournant à travers au moins deux affaires. L'affaire Cahuzac, premièrement, où il y a eu une condamnation judiciaire, et l'affaire du maire de Levallois-Perret, Monsieur Balkany, Madame Balkany, dont on attend le jugement, mais
ils sont encore maire et première adjointe.
Bien sûr. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'au-delà de la sanction judiciaire à venir, a priori, c'est finalement effectivement ce qui nous a marqué, ce qui a marqué. Finalement l'exercice de leur mandat, c'est ce sentiment d'impunité et c'est finalement leur défiance à l'égard de l'exigence de moralisation de la vie politique, puisque eux aussi ont opposé finalement une fin de non-recevoir, c'est-à-dire autrement dit qu'il n'y avait rien à questionner, qu'il n'y avait pas de problème à l'égard de leur propre comportement et de leur probité, et de l'autre, une stratégie judiciaire qui a fait que finalement, les affaires Balkany ont perduré et se sont transférées en feuilleton judiciaire-politique dont la démocratie représentative, dans sa globalité, a pâti. Parce que finalement, au-delà de la figure Balkany, vous avez là un imaginaire collectif qui est imprégné par un comportement ou des comportements individuels qui rejaillit finalement sur l'ensemble de la classe politique ou presque. D'où cette défiance de plus en plus forte. Et je le rappelle, les études sur la confiance politique que publie le CEVIPOF chaque début d'année depuis maintenant une dizaine d'années soulignent notamment que les sentiments premiers de nos concitoyens à l'égard de leur politique sont les sentiments de dégoût et sentiments suivant lesquels ils seraient corrompus. Et les chiffres atteignent plus de 70% quand même. Donc, vivre dans une démocratie représentative où finalement nos élus sont représentés comme des corrompus dans l'esprit ou dans l'imaginaire collectif, forcément, cela pose problème.
Cette enquête, elle montre aussi un niveau d'exigence en termes de probité qui est directement proportionnel à ce dégoût dont vous parlez, Bélier Nabli.
Oui, en effet, c'est vraiment aussi là pour le coup un fait ou un tournant important. C'est l'exigence en la matière, l'exigence en matière de probité de nos responsables est une exigence qui est réévaluée à la hausse. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, ici, c'est de savoir pourquoi. Alors, objectivement, on pourrait se dire aussi que les affaires, désormais, sont révélées. Il y a une alliance objective entre, finalement, le travail d'enquête d'un certain nombre de médias et l'indépendance des juges. Et lorsque leur action combinée s'avère efficace, ça permet la révélation, premièrement, d'affaires qui n'étaient pas forcément révélées à une certaine période. Donc l'accès à l'information, le droit de savoir, fait que finalement on sait que ce type de comportement existe, et que deuxièmement, effectivement, la réaction la réception de ce type d'information a également évolué, dans la mesure où, encore une fois, on a l'impression que nos responsables politiques sont pas efficaces dans leur action, et que par conséquent, c'est la personne qui, à son tour, questionnée, pas seulement son action, sa légitimité en tant que responsable.
Le fait de promettre toujours plus d'exemplarité et de commencer chaque mandat finalement par une loi de moralisation donne aussi évidemment au corps électoral l'envie de voir cette moralisation de plus en plus effective. On va revenir sur ces questions tout à l'heure, Béliard Nabli, avec vous. Merci de rester. On vous retrouve après le journal de 8h qui arrive.
France Culture, les matins d'été. Benoît Bouscarel.
8h20, la suite de ces matins, nous retrouvons notre invité Béliard Nabli, maître de conférences en droit public et auteur de La République du soupçon, la vie politique au risque de la transparence, publié aux éditions du Cerf. L'affaire du Omargate impliquant François de Rugy peut-elle contribuer, comme de nombreuses autres affaires avant elle, à faire émerger une nouvelle culture démocratique dans notre pays? Et en attendant, quelles conséquences ont-elles ces affaires sur le corps électoral? Vous parliez tout à l'heure de ce sentiment de défiance qui monte, alors ça c'est pas une surprise, hein, Béliard Nabli, il y a une résignation civique, c'est comme ça qu'on pourrait aussi le qualifier, ce sentiment de défiance.
Oui, c'est un sentiment de défiance qui caractérise notre République démocratique et qui se traduit notamment par la montée de l'abstention électorale, même s'il y a des exceptions comme les dernières élections européennes. La tendance de fond est bel et bien celle de l'abstentionnisme galopant en France, et ce n'est qu'un signe parmi d'autres de cette défiance à l'égard de nos responsables politiques qui sont confrontés eux-mêmes à un enjeu qui est celui de renouer avec nos concitoyens, renouer le lien de confiance. Et s'ils n'arrivent pas à trouver finalement la voie de cette relation nécessaire et impérative, eh bien c'est fondamentaux de notre démocratie représentative qui se retrouve dans une situation délicate.
Avec un risque aussi de voir monter une défiance envers les institutions, parce qu'au-delà des personnes dont on parle depuis tout à l'heure, ce sont évidemment aussi les institutions qui sont au cœur de ces affaires. Le président de l'Assemblée nationale, c'est pas uniquement François de Rugy lui-même qui est montré là dans cette affaire.
Mais c'est l'un des aspects les plus intéressants, c'est-à-dire que on parle à travers l'enjeu de la moralisation de la vie politique, on met en avant finalement le comportement d'acteurs individuels. En réalité, tout cela est systémique, c'est-à-dire que tout est lié et finalement, ce qui pose problème fondamentalement, c'est le système institutionnel dans lequel s'inscrivent ces comportements et qui permettent à la fois une forme d'opacité et un sentiment d'impunité, et notamment le sentiment de ne pas avoir à rendre compte de ses actes ou de ses actions. Je vous renvoie à l'affaire Benalla, qui s'est conclue notamment par cette déclaration du président Macron. J'assume tout, cette affaire, finalement, je l'assume, et finalement, si on doit chercher un responsable, qu'il vienne me chercher. Sauf qu'il bénéficie d'un régime constitutionnel qui le protège d'un point de vue de la responsabilité politique. Et de l'autre, vous avez l'affaire de Rugy, où en quelques minutes, il a pris la décision de démissionner, de renvoyer sa directrice de cabinet pour une affaire analogue à une affaire dans laquelle lui-même a été impliqué, c'est-à-dire une histoire de logement social plus ou moins légitimement occupé. Bon, sauf que le contraste entre le caractère expéditif de la décision qu'il a assumée à l'endroit de sa directrice de cabinet et finalement une forme de tolérance qui s'est auto-appliquée, ce contraste-là renvoie finalement, encore une fois, à un défaut d'appréciation de la situation et de l'exigence attendue à l'égard de nos responsables, encore une fois.
Alors, au-delà des affaires Béliard-Nably qui font la chronique comme ça de la vie politique française, vous soulignez dans votre ouvrage le problème du pantouflage. Et ça, c'est un vaste problème qui nous amène aussi à regarder les choses de manière un peu plus de hauteur. Le système du pantouflage qui, depuis quelques années, est en grande expansion, ce système-là, dites-vous, pose effectivement problème parce qu'il est aussi contributeur de cet effacement de la frontière entre la vie
publique. Oui, c'est le pantouflage et le rétro-pantouflage, c'est-à-dire le fait que des hauts fonctionnaires finalement aillent vers le secteur privé et puis, dans un second temps, reviennent dans le secteur public. C'est ce phénomène de pantouflage et de rétro-pantouflage qui prend une dimension nouvelle, révélée par finalement ce qu'on a appelé le nouveau monde, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de la majorité actuellement au pouvoir. Je veux dire par là que, au-delà de la sphère des hauts fonctionnaires, c'est en fait un triangle qui se dessine, qui a été notamment bien souligné et révélé aussi par l'ouvrage d'Antoine Vauchez, dont j'ai oublié l'intitulé, mais c'est son dernier ouvrage, hein, sur précisément ce phénomène où des hauts fonctionnaires vont vers le secteur privé pour finalement exploiter leur carnet d'adresses et en même temps vont connaître une vie politique, donc finalement vont vivre dans trois sphères à la fois distinctes et liées ou interdépendantes, sauf que précisément tout cela faisant fi de la frontière théorique et formelle qui devrait exister entre des intérêts différents, entre l'administration, le politique et le secteur économique et financier. Et la remise en cause finalement de la légitimité de ces frontières brouille finalement ce qu'on pourrait appeler l'intérêt général, qui est pourtant le moteur, la justification de l'action publique. Pour vous donner une illustration concrète du trouble suscité par ce brouillage, je vous renvoie tout simplement au fait qui a finalement cristallisé la réaction et la démission de Nicolas Hulot du ministère de l'écologie. C'est tout simplement le jour où il est entré dans une salle de réunion officielle et décisionnelle, c'est-à-dire une réunion d'où devait ressortir une décision publique et au sein de laquelle il a constaté la présence du lobbyiste en chef des chasseurs. Et c'est cette présence incongrue et injustifiée au regard finalement des procédures publiques en vigueur qui a suscité son trouble et finalement ses interrogations quant à la conviction, la conviction de l'action présidentielle ou de la majorité en matière d'environnement. Aujourd'hui, dans l'affaire de Rugy, vous avez à nouveau cette question de la présence de lobbyistes dans la sphère des pouvoirs, notamment à travers des dîners à nouveau informels, dans la mesure où on a appris que M. de Rugy n'avait pas souhaité qu'un certain nombre de dîners avec des lobbyistes à l'hôtel de Lassé, au ministère qu'il occupe actuellement, soit
figure
clairement dans son agenda politique. Mmh. Donc, soit il y a un problème, soit il n'y a pas de problème. Soit il sait que ce type de dîner pose problème, auquel cas il devrait peut-être s'abstenir, soit il considère qu'il n'y a pas de problème et auquel cas on s'interroge sur le fait qu'il ne veuille pas afficher ce type de rencontre. La question de fond, elle est relativement simple. Le fait que des groupes de pression veuillent accéder aux hommes politiques et aux décisionnaires, c'est quelque chose de relativement cohérent. C'est l'objet même de leur activité. Sauf que ce type d'activité d'une certaine manière, ne relève pas de notre culture politique administrative. La République et l'État français se sont construits sur une idée forte et centrale de l'intérêt général qui serait séparé des intérêts particuliers. C'est toute la pensée rousseauiste qui a animé le projet moral et politique des républicains en France. Précisément sur cette opposition d'une certaine manière entre un intérêt général transcendant les intérêts particuliers. Or, on a là une évolution de nos mœurs politico-administratives qui admettent de plus en plus que les intérêts particuliers, les intérêts privés puissent contribuer légitimement à la définition de l'intérêt général, c'est-à-dire à la définition de politique publique, y compris via la définition des décisions publiques. Et c'est ça qui devrait susciter un débat de fond plutôt que la rencontre plus ou moins informelle entre un ministre et des représentants de lobby.
Merci beaucoup Meliar Nabli de nous avoir aidé à y voir plus clair ce matin. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La République du soupçon, la vie politique au risque de la transparence, publié aux éditions du Cerf. C'était en 2018.